Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Philippe Le Caplain.
Le décryptage de la vie politique en France est maintenant sur RFI. C'est avec vous Bruno Jambard. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le vice-président de l'Institut de sondage Opinionway. La messe est dite au parti LR. Il y a une heure de cela, le résultat du vote des adhérents a été communiqué et c'est Bruno Retailleau qui a été choisi pour présider la formation. Raphaël Delvolvé, vous avez suivi ce scrutin pour RFI auquel étaient invités les 122 000 encartés. Le score est sans appel.
Ah oui, c'est un plébiscite, comme on dit, 74,4% pour Bruno Retailleau qui a donc écraser donc son concurrent Laurent Wauquiez. Cette élection très nette du ministre de l'Intérieur veut dire une chose. Vous savez, le parti LR, avant le début de la campagne, il y a trois mois à peu près, comptait 44 000 adhérents. Aujourd'hui, il y en a 122 000, 100 000 qui ont voté. 74% d'entre eux ont donc voté pour Bruno Retailleau. Il suffit pas d'avoir fait l'ENA pour comprendre ce qui s'est passé. Les nouveaux adhérents sont venus essentiellement pour apporter leur voix à Bruno Retailleau qui, il faut le dire, depuis son entrée au gouvernement, est parmi les personnalités politiques les plus populaires. Il a dû donc, il a réussi à convertir cela donc en succès ce soir. Il est légitime. Hein.
Et au-delà, si Bruno Retailleau a tué le match, est-ce qu'il devient le candidat naturel des LR pour la présidentielle qui aura lieu dans deux ans?
Alors évidemment, ça c'est la réflexion que tout le monde se fait ce soir, mais les choses ne sont pas aussi simples. En tout cas, Bruno Retailleau, son entourage le fait savoir. Colline après colline, ça c'est la petite formule qu'a répété le ministre de l'Intérieur tout au long de sa campagne. On y va pas après pas. Là, il lance la bataille des idées. C'est vrai que la droite a pêché là-dessus depuis plusieurs années. Ça s'est traduit par des scores électoraux assez catastrophiques. De par un manque de leadership, ça sera l'un des grands défis de Bruno Retailleau.
Bruno Jambard, Bruno Retailleau va avoir fort à faire pour mener de concert ses deux jobs, hein, président de LR et ministre de l'Intérieur. Est-ce que cela va affaiblir son action ministérielle ou au contraire lui donner plus de poids au sein du gouvernement, peser sur sa politique, notamment quand il réclame le durcissement des relations entre la France et l'Algérie ou les critères de naturalisation?
Je pense qu'à court terme, ça lui donne plutôt du poids, puisque le gouvernement a besoin des élus et des députés de LR à l'Assemblée pour être un peu plus fort et avoir un pot de stabilité minimale face aux oppositions. Et donc, désormais, il y a une sorte de convergence entre le ministre LR emblématique qui est au sein du gouvernement et puis le chef du parti. Donc ça quand même entraîne normalement aussi au soutien de ces députés LR, au moins à court terme. Après, ça ne règle pas toutes les difficultés de cette alliance et des divergences qu'il peut y avoir entre Bruno Retailleau et une partie de la Macronie.
Vous pensez quoi de ce résultat 75-25? Enfin, c'est considérable pour Bruno Retailleau.
Je pense que c'est une surprise sur l'ampleur, pas tellement sur le vainqueur. Il était le favori, même si on est toujours très prudent quand on parle d'une élection interne, parce qu'on ne sait pas bien qui sont ses électeurs. L'ampleur est assez surprenante. Je crois que c'est probablement, elle montre qu'effectivement Bruno Retailleau a réussi à faire venir des gens qui ont voté pour lui dans cette élection, mais je pense que Laurent Wauquiez aussi, il suffit de regarder un peu la carte et de voir l'importance des adhésions dans sa région, hein, en Auvergne-Rhône-Alpes, mais ça veut dire aussi que la base des 44 000 de départ, elle a tranché nettement pour Bruno Retailleau, ce qui n'était pas une évidence compte tenu de l'ancienneté et de la relation qu'il pouvait avoir avec Laurent Wauquiez.
Alors qu'est-ce qui va se passer désormais? Laurent Wauquiez justement vient de s'exprimer depuis sa ville du Puy-en-Velay.
Il faut porter un projet de rupture. Et nous ne pourrons le faire si nous sommes dilués dans le macronisme. Les Français attendent de nous que nous portions un projet de changement permettant de tourner la page du en même temps. Un vrai projet d'alternance.
Et la question de l'union des droites se repose avec cette élection. Autrement dit, la possibilité que les Républicains puissent s'allier un jour à l'extrême droite, comme l'a déjà fait l'ancien président des Républicains, Éric Ciotti. Voici deux opinions. Tout d'abord, celle de Éric Zemmour, le président de Reconquête sur RTL.
Sur le plan idéologique, je les lis, je les écoute. J'ai parfois l'impression de me lire et de m'entendre. C'est parfois même troublant. J'ai l'impression qu'ils ont appris par cœur certaines de mes tirades. Je ne fais pas de différence idéologique entre eux, puisque je ne fais pas de différence entre moi et moi. Ça prouve au moins que j'avais raison. Ils osent désormais dire exactement ce que je disais.
À présent, Marion Maréchal, députée européenne, présidente d'Identité Liberté sur LCI.
Déjà une évolution de ligne qui m'apparaît positive, hein, puisque je dois dire qu'aujourd'hui, sur l'intégralité des sujets ou presque, ils rejoignent la ligne que moi et d'autres d'ailleurs défendons depuis des années sur le régalien, sur l'immigration, sur l'Europe, sur le protectionnisme, sur le refus du fanatisme vert. Deuxième sujet que je trouve très intéressant, c'est le fait que dorénavant, Laurent Wauquiez, comme Bruno Retailleau d'ailleurs, refuse de s'inscrire dans un rejet, j'ai envie de dire, moral et de principe à l'égard du camp national et du Rassemblement national en particulier. Il parle aujourd'hui de cordon sanitaire contre le parti anti-républicain qui est devenu la France insoumise. Enfin, on en arrive à cette prise de conscience. Et la dernière chose que je trouve très intéressante également, c'est le fait qu'ils tous les deux fassent valoir leur admiration pour Giorgia Meloni, qui a construit une grande coalition qui va du centre droit jusque finalement le camp national. Et donc s'ils allaient au bout finalement de ce modèle, cela pourrait laisser indiquer que demain ils seraient peut-être davantage disposés à ouvrir les alliances qu'ils ne le sont aujourd'hui.
Votre analyse, Bruno Jambard, sur ce qu'on vient d'entendre, sur les évolutions des dirigeants de LR?
En fait, je pense que ce débat est intéressant, mais il n'a pas de sens avant la présidentielle. Parce que l'élection présidentielle, elle a cette spécificité d'être une élection de personnalité. Et donc, en fait, que ce soit Bruno Retailleau ou un autre, il peut très bien réussir à s'imposer, à prendre le pas sur d'autres partis de la droite radicale, sur à la fois Éric Zemmour et pourquoi pas sur en partie sur celui ou celle qui sera le candidat du Rassemblement national. En s'imposant et en étant finalement celui qui sortira un peu en tête de ce camp-là pour l'emporter. Il peut aussi réussir à l'emporter sur le camp des modérés et affronter Marine Le Pen ou Jordan Bardella de l'entour. Donc ça, c'est une question qui concerne des élections législatives, mais notre calendrier fait que les prochaines élections, normalement, sont une élection présidentielle. Donc je pense que ça ne se posera qu'après, ou alors ça se posera effectivement, si de nouveau une dissolution intervient d'ici la fin du quinquennat.
En tout cas, est-ce que c'est de bon augure pour une renaissance du parti LR, 47 députés seulement hein, sur 577, et donc sortir le parti du marasme dans lequel a plongé l'élection d'Emmanuel Macron?
La bonne nouvelle pour les LR, c'est la capacité quand même d'attirer des nouveaux adhérents. Alors bien sûr, c'est pour voter avec une élection. On sait aussi les jeux d'appareils qui permettent d'aller faire des cartes. Mais il y a quand même eu vraiment, je dirais, un électorat de droite qui s'est mobilisé. Maintenant, ça ne règle pas les difficultés. Et cette difficulté majeure qui est ce positionnement entre l'extrême droite et le macronisme. Et qu'offre aujourd'hui la droite et tout le travail de Bruno Retailleau, ça va être de proposer une offre politique qui donne envie à la fois à des électeurs qui sont partis au Rassemblement national de revenir, mais aussi à des électeurs qui ont voté Emmanuel Macron en 2022 de voter de nouveau pour LR.
Bruno Jambard, vice-président de l'Institut de sondage Opinionway.
Philippe Le Caplin.
Après les adhérents des Républicains, ce sont ceux du Parti Socialiste qui sont appelés à choisir leur nouveau dirigeant. Le point d'orgue de ce processus sera le congrès de Nancy à la mi-juin, quelques jours après la désignation du premier secrétaire. Et le choix des socialistes pourrait être déterminant dans une éventuelle union pour la présidentielle. Aurélien de Vernois, il y a trois candidats. Olivier Faure, Boris Vallaud, Nicolas Maillère-Rossignol. Il y a les partisans du jeu ouvert et ceux qui prônent le passage en force.
Exactement. Olivier Faure, par exemple, reste sur la ligne qu'il tient depuis son arrivée à la tête du PS en 2018. Un candidat socialiste si possible, mais pas d'opposition de principe à céder la place. En revanche, du côté de Nicolas Maillère-Rossignol et ses alliés, François Hollande, Carole Delga ou Anne Hidalgo, la prééminence socialiste est une priorité, une ligne qualifiée d'identitaire par les foristes et qui passerait par le rassemblement sous un même drapeau de toute la galaxie socialiste aujourd'hui dispersée, Bernard Cazeneuve, Raphaël Glucksmann ou certains ministres et élus macronistes.
Sauf que Aurélien, cela, beaucoup d'alliés n'en veulent pas.
Si c'est pour se faire marcher dessus comme avec les insoumis, non merci, cingle un élu communiste. Pas beaucoup plus d'enthousiasme côté écologiste, où les multiples alliances passées avec le PS n'ont pas laissé que de bons souvenirs. Beaucoup défendent donc l'idée d'une primaire très large, c'est-à-dire pas seulement avec des candidats désignés par les partis, sinon personne ne jouera le jeu, estime une ancienne insoumise. Les insoumis, justement, qui regardent cette agitation avec amusement, plus il y a de divisions au PS, mieux je me porte, rigole un député LFI. À moins qu'une position centrale émerge à l'occasion du congrès socialiste, le troisième homme de l'élection, Boris Vallaud, plaide pour une union à toute force, mais pas à tout prix, un peu flou pour certains. « Tu ne pourras pas être éternellement la Suisse », a lancé cette semaine une haute dirigeante du PS au patron des députés. Bah
justement, écoutons Boris Vallaud, il était l'autre jour sur la télé publique Sénat.
« Je suis dans l'exercice
quotidien de ce rassemblement à l'Assemblée nationale comme président du groupe, puisque j'ai 66 députés qui ne soutiennent pas les mêmes candidats, qui n'ont pas la même sociologie électorale et avec lesquels j'essaye à chaque fois de trouver le point d'accord, le point de convergence, la décision majoritaire quand nous n'arrivons pas à l'unanimité, et ce travail exigeant que je fais au groupe, je pense être capable de le faire au parti.
Et puis il y a donc comme candidat aussi Nicolas Mayer-Rossignol, numéro 2 du parti. Ce qu'il dit sur France 3 à midi, sur le rapport à entretenir avec le parti d'extrême gauche qu'est LFI.
Nous voulons retrouver un grand parti socialiste. Vous savez le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui il y a plus de socialistes à l'extérieur du parti socialiste qu'en son sein. Moi je veux ce que j'appelle un GPS, un grand parti socialiste. Quand on veut savoir où on va, c'est bien d'avoir un GPS. Il faut remettre un parti clair sur les valeurs, pas de compromission, et qui bosse. La ligne est très claire, il n'y a pas d'alliance avec LFI. Mais je fais bien une distinction entre l'électorat de la France insoumise et la direction de la France insoumise. Beaucoup d'ailleurs en sont revenus parce que depuis, il y a eu le 7 octobre, depuis il y a eu des propos outranciers, et je crois que beaucoup de gens sont orphelins d'une offre politique à gauche qui soit clairement à gauche, clairement républicaine et crédible.
Bruno Jambard, on a le sentiment que l'avenir du Parti Socialiste passe par sa stratégie vis-à-vis de LFI, la France Insoumise.
Oui, parce qu'effectivement, on se rend compte qu'on est aujourd'hui dans un rapport de force qui est très favorable à LFI. Et donc, cette alliance, elle ne permet pas aux socialistes de reconstruire un espace de centre-gauche. On voit bien que, hormis la petite période avec Raphaël Glucksmann au moment des européennes, mais parce que c'était Raphaël Glucksmann et parce qu'il a été avec une liste autonome, les électorats de gauche qui ont voté Emmanuel Macron depuis 2017 ne sont pas revenus au Parti Socialiste. Et donc tout l'enjeu, c'est de reconstruire cela. Et ça paraît quand même difficile aujourd'hui dans cette alliance avec LFI. En même temps, cette alliance, elle a permis au Parti Socialiste de conserver un nombre important de députés. Et sans elle, ils en auraient eu beaucoup moins.
Écoutons encore Nicolas Mayer-Rossignol. Comment il conçoit le rapport du PS à ses valeurs? Il a fait cette mise au point concernant la sécurité qui a longtemps été une sorte de tabou pour le parti.
Nous disons que les sujets de sécurité, comme les sujets de santé et de justice sociale, ils touchent qui en premier? Les catégories populaires. Et donc c'est l'honneur de la gauche, et ce sont des valeurs de gauche, de défendre la justice sociale, l'accès aux services publics et en particulier la santé et la sécurité. Nous disons simplement qu'il y a une génération dont je fais partie qui défend ce socialisme populaire vers les personnes qui vivent dans des conditions difficiles, d'extraction modeste comme on dit, et qui sont confrontées à ces sujets. Qui est-ce qui est coincé dans son HLM parce qu'il ne peut pas garer sa voiture parce qu'il y a un dealer en bas? Et ça, les maires de gauche le gèrent tous les jours. Je pense qu'il y a pu y avoir une partie de la gauche qui, par posture idéologie, reste encore effectivement un peu pusillanime ou tabou sur ces sujets, c'est pas notre cas.
Quelles sont aujourd'hui les valeurs socialistes, Bruno Jambard?
C'est probablement la question que se posent beaucoup d'électeurs, ils ont du mal à les identifier. Mais normalement, le Parti Socialiste, c'est un parti d'abord qui est quand même pro-européen, ce qui le différencie par exemple assez fortement de la France Insoumise. C'est un parti qui est clairement un parti social-démocrate, donc qui est pour une évolution du système économique avec de la redistribution, mais en même temps favorable à l'économie de marché, ce qui le distingue là aussi très fortement de la position très de rupture de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Mais évidemment, il s'est fait un peu en partie manger ce créneau par Emmanuel Macron à partir de 2017. Et on a assisté aussi dans le même temps à une forme de radicalisation d'une partie de l'électorat qui n'a pas suivi Emmanuel Macron et qui a rejoint et qui a voté pour LFI.
Spontanément, quand on parle aujourd'hui de la gauche, on pense d'abord à LFI avant de penser PS et PC. Donc le travail est dur pour le prochain premier secrétaire du PS.
Oui, et c'est en fait tout l'enjeu de la gauche. C'est que si la gauche reste identifiée trop fortement à LFI, ça la met, on le voit, sur un potentiel électoral qui peut être entre 25 et 35%. C'est trop peu dans notre système électoral pour l'emporter. Il faut, notamment au second tour de la présidentielle, être capable de rassembler 50% des électeurs. Et donc, on voit bien que c'est même trop peu pour l'emporter dans une élection législative. Quand les socialistes et la gauche ont remporté les législatives, on avait une gauche plutôt autour de 42-45% des voix. Donc ça, cette association qui est très juste, c'est un peu ce que ressentent beaucoup d'électeurs, ça réduit trop le périmètre de la gauche. Et donc tout cet enjeu, c'est comment réélargir ce périmètre avec probablement deux offres politiques plus séparées, comme il y en avait dans le passé, une gauche radicale et une gauche social-démocrate.
Merci pour ces analyses et commentaires. Bruno Jambard, vice-président de l'Institut de sondage Opinionway. C'était Dimanche Politique sur RFI, réalisé ce soir par Valentin Vaner.